Le progrès chrétien de George Whitehead, troisième partie, suite, de nouveau relâché étant remis en liberté sans être renvoyé dans nos foyers respectifs, nous pouvions alors voyager là où le Seigneur voulait bien nous ordonner d'aller, pour visiter nos amis et nos assemblées, et le Seigneur mit sur mon cœur une préoccupation, surtout de visiter nos amis et nos assemblées dans le Norfolk et à Norwich. J'y avais auparavant travaillé dans l'Évangile, et j'y avais souffert auparavant, ainsi qu'en Suffolk et dans l'Essex et dans quelques autres régions. Le Seigneur me fortifia et m'assista grandement par sa puissance dans son service en tous ces lieux. Cela servit efficacement à sa louange et au réconfort et à l'affermissement de son peuple dans la foi vivante, qui est en Jésus-Christ sa lumière et sa grâce. Bien que nos épreuves dans la prison de Belly fussent extrêmes, comme on l'a dit plus haut, le Seigneur fit néanmoins concourir toutes choses à notre bien. Notre foi et notre force en Christ furent grandement augmentées, et la vérité bénie fut propagée. Par les grandes souffrances de ce temps-là, et par notre fidèle témoignage rendu au milieu d'elles, beaucoup furent convaincus, ajoutés à l'Église, et rassemblés dans notre communion spirituelle et dans notre société. Les grandes persécutions alors dirigées contre nous éveillèrent la curiosité de gens sans préjugés et bien disposés, qui concluaient que la persécution et la cruauté exercée contre nous pour la religion étaient le signe d'une fausse religion chez les persécuteurs, et que les victimes patientes ressemblaient davantage à de vrais chrétiens que les persécuteurs. Pendant notre sévère détention dans la prison de Berry, mentionnée ci-dessus, mes compagnons de captivité, George Fox Jr. et George Rose, reçurent un don et une part dans le ministère de l'Évangile éternel. La puissance et l'Esprit de Christ les rendirent capables de faire retentir le jugement contre la tromperie et la méchanceté, et de prêcher le chemin de la vie et du salut, ce qu'ils firent avec le zèle et l'amour du Seigneur Dieu, et ils exercèrent leur ministère selon leurs divers dons et capacités, reçus du dispensateur de tout don bon et parfait. George Rose devint un grand voyageur dans l'œuvre du Seigneur au-delà des mers, non seulement en Hollande et en Allemagne, mais aussi dans les colonies américaines de la Nouvelle-Angleterre, de Virginie, des Bermudes, de la Barbade et d'autres lieux éloignés. Je n'ai pas de récit détaillé de ses voyages dans ces régions et ces îles, et nous avons souvent souhaité en savoir davantage. Nous comprenons toutefois qu'après diverses difficultés et dangers traversés en mer, et de grands voyages et services dans ces contrées étrangères d'Amérique, lui et quelques autres amis perdirent la vie dans une tempête en mer près de la côte de Virginie, George Fox Jr. ne vécut pas longtemps après un emprisonnement qu'il subit lorsque le roi Charles y revint au pouvoir, bien que ce ne fût pas un emprisonnement dur, il fut transféré de Harwich à Lambeth sur la base de suggestions ou de plaintes sans fondement. Il mourut à la campagne quelque temps après avoir été remis en liberté. John Howard, qui était prisonnier avec nous à la prison de Berry pendant que nous y étions détenus, souffrit patiemment avec nous et se conduisit avec ordre et sobriété. Il avait jeûné avec nous, était devenu bas et humble en son esprit et avait quelque part dans le ministère, mais dans les 3 ou 4 ans qui suivirent notre libération, il se perdit en procédant de manière désordonnée avec une veuve en vue du mariage, mais fut déçu. Ajoutant à son tort, il conçut du préjugé contre certains des frères, y compris George Fox l'aîné et d'autres, pour avoir désavoué sa démarche matrimoniale irrégulière et injustifiée. Je mentionne cela pour éviter tout reproche, afin que nous ne soyons pas injustement blâmés à cause de sa chute. Le fouet public lorsque j'étais du côté de Colchester et de Coggeshall, un prêtre nommé Oakley Walker, de Stanway, à 3 000 de Colchester, avait dénigré les Quakers dans son opposition ignorante. Stephen Crisp lui répondit brièvement et demanda un débat public avec lui dans ce qu'il appelait son église paroissiale, et un lieu et une heure furent convenus pour se tenir dans son église. Toutefois, quand nous y arrivâmes, le prêtre prit la plus grande partie du temps à prêcher sur le texte « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai prescrite à Horeb pour tout Israël, etc. » Le thème de son sermon affirmait que les Écritures devaient être leur règle préférée et unique. Mais il était presque nuit lorsque le sermon prit fin, et comme les jours étaient alors très courts, nous eûmes très peu de temps pour parler. Il ne savait pas comment commencer à nous accuser, mais il nous questionna au sujet du Christ et de sa nature humaine, comme ils disent. Nous reconnûmes sa nature divine, et aussi qu'il est homme, puisqu'il est notre seul médiateur selon l'Écriture. Mais lorsque notre cher ancien ami, Robert Lugutté, interrogea le prêtre au sujet des deux natures du Christ, celle qu'il appelait humaine et la nature divine, le prêtre tourna cette question en une sorte de légèreté et d'impertinence. Comme la nuit tombait, la réunion se termina bientôt, sans avantage, mais au désavantage du prêtre, car le peuple était généralement courtois et plus sérieux que leur prêtre. Avant la fin de l'hiver 1656, le Seigneur me donna l'occasion de visiter les amis à Londres, ce dont j'avais été empêché avant mon emprisonnement à Edmondsbury. La visite à Londres fut très agréable aux amis, et j'eus un très bon service dans et au travers des assemblées, dans le ministère et la démonstration du Saint-Esprit et de la vérité de Christ, et plusieurs y furent convaincus pendant le peu de temps où j'étais parmi eux. J'étais préoccupé de retourner dans l'Essex et le Sussex. Je visitai des assemblées à Colchester, Coggeshall et dans d'autres parties de l'Essex, comme dans le Dange Hundred, et dans de nombreuses parties du comté, ainsi qu'à Sudbury et Haverhill et d'autres lieux du Suffolk. Je fus poussé à tenir une réunion à Saffron Walden, où j'eus une grande et bonne assemblée, quoique vers la fin, quelques professants fissent un peu d'opposition, mais ils furent bientôt répondus et réduits au silence. Pourtant, lorsque quelques amis de l'Essex et moi-même fûmes à une auberge ce soir-là au souper, le bailli de la ville, avec un constable, ou quelques officiers, et d'autres avec eux, entrèrent et firent qu'on m'emmena, et qu'on me mit au pilori d'astérisque qu'ils me gardèrent là jusqu'à fort tard dans la nuit avant de me relâcher. Ils firent cela sans aucune infraction à la loi ni crime porté contre moi, mais seulement par humeur chagrine et par leur volonté envieuse, afin de jeter sur moi et sur mes amis un mépris sans cause. J'écrivis au bailli le lendemain matin pour lui demander s'il avait quelque fait contre moi, ou quelque chose de plus à me dire, mais il ne me répondit pas. Je partis donc de là vers Cambridge et les régions voisines, où je visitai des assemblées dans l'amour de Dieu à travers la campagne, jusqu'à ce que je revienne dans l'Essex, à Colchester. Astérisque le pilori est un instrument de châtiment en bois fixé à un poteau, avec des trous pour le cou et les mains. Les contrevenants y étaient enfermés et ainsi exposés au mépris public. J'eus une réunion à Nélan, dans le Suffolk, non loin de Colchester, où le peuple commun était si grossier qu'il ne permit pas que la réunion soit tranquille dans la maison, et semblait prêt à abattre la petite maison. Nous nous retirâmes donc pour nous rassembler dans une prairie, près de l'extrémité de la ville du côté de l'Essex. La réunion fut grande, et j'eus une bonne et pleine occasion de déclarer et de démontrer la vérité vivante, avec la puissance et la domination que Dieu me donna. La puissance du Seigneur domina tout, et se répandit sur la réunion au point qu'elle fut paisible, bien qu'elle durât au total près de 3 heures, et que la saison fût alors assez froide. Ce matin-là, avant la réunion, l'ami qui possédait la maison à Nélan, où la réunion, avait été fixée vint à moi en pleurant et très troublé, parce que quelques méchants compagnons de la ville avaient menacé de me tuer si je tenais une réunion là. Je plaigne l'homme de laisser entrer de telles craintes à cause de leurs menaces, et je lui dis que je ne les craignais pas, j'étais abandonné à la volonté de Dieu, entre les mains duquel est ma vie, et ils ne pouvaient faire plus que ce qu'il leur permettrait. Je ne doutais pas que le Seigneur les retiendrait malgré leur envie et leurs desseins mauvais, et je ne décevrai pas la réunion prévue, ni ne changerai l'arrangement. J'encourageai donc le pauvre ami contre ses craintes, et le Seigneur parut pour moi, tant dans son service que dans ma préservation et celle des amis, par sa puissance divine qui nous donna la domination et une réunion paisible. Que la domination, la gloire et la louange lui soient attribuées et rendues à jamais. Après quelques semaines, le Seigneur mit de nouveau sur mon cœur la préoccupation d'avoir une autre réunion à Nélan, qui fut donc fixée dans la maison du même ami où la première avait eu lieu. Mais nous tîmes cette seconde réunion dans sa cour ou son petit verger, avec la présence de nombreux amis de Colchester et d'autres lieux de l'Essex et du Suffolk. Après avoir attendu quelque temps le Seigneur en silence, je fus poussé à me lever et à prêcher l'Évangile éternel, y compris un témoignage contre le péché et la méchanceté, contre la bête et le faux prophète, et contre la puissance et le ministère persécuteur du diable. Après avoir déclaré la vérité pendant un temps considérable dans la réunion, une personne se prétendant gentilhomme entra en se précipitant avec un constable et une troupe grossière, me tirant violemment vers le bas pendant que je déclarais la vérité. Le constable et quelques-uns d'entre eux m'emmenèrent à Huffington chez notre vieil adversaire, John Gurden. Une dénonciation contre notre réunion lui avait déjà été faite, et il se mit aussitôt à me menacer. Je demandai qu'il ait la modération de m'entendre avant de prononcer un jugement. « Tu es un coquin modéré, » dit-il. Je répondis qu'un tel langage ne convenait pas à un juge de paix, surtout à quelqu'un qui se disait chrétien. Il se mit très en colère et me menaça furieusement. Je fus retenu, et il échafauda un plan pour me faire emprisonner de nouveau comme auparavant, ce qui avait fait profondément souffrir plusieurs d'entre nous. Après ces menaces colériques, il rentra dans son salon, où son fils et le prêtre de la paroisse conférèrent. Entre-temps, j'étais assis dans son vestibule avec quelques amis, attendant le Seigneur. Je respirais secrètement en esprit, afin que, si cela pouvait s'accorder à sa volonté, il ne permette pas alors à ce persécuteur de m'envoyer à la prison de Bailey, où moi et d'autres venions d'être, souffrant profondément pendant longtemps, car sa malice ne s'arrêtait pas à cet emprisonnement dur ni au nôtre. Il plut au Seigneur de répondre à mon désir, et il me montra immédiatement qu'il ne m'enverrait pas en prison, mais qu'il me ferait souffrir par le fouet. Je fus grandement rafraîchi, fortifié et abandonné à la volonté du Seigneur, pour endurer patiemment ce châtiment que le persécuteur plein de préjugés fut autorisé à m'infliger, cela étant pour l'amour de Christ et de la vérité de son Évangile, en quoi j'eus une grande paix et une forte consolation en celui pour lequel je souffrais. Je fus bientôt appelé dans le salon devant John Gurden et son fils Robert, avec le prêtre. On m'examina par de nombreuses questions, notamment mon nom, mon pays et la raison de mes voyages au loin. Je répondis en détail et leur dis franchement comment Dieu les renverserait et leur ôterait leur pouvoir, eux qui étaient persécuteurs et oppresseurs de ses serviteurs ou de sa semence, et aussi que Dieu le limiterait, c'est-à-dire John Gurden, afin qu'il ne puisse mener à bien tous ses mauvais desseins. Il me dit d'un ton moqueur, « Va trembler ». Je dis, « Méprises-tu donc le tremblement ?» Et il répondit, « Oui, je méprise le tremblement. » Je dis, « Alors tu méprises ce que la parole du Seigneur a commandé ? Comment le prouves-tu » dit-il. Je lui demandai de me faire apporter une Bible. Une Bible était tout près, et je lui montrai Ézéchiel 12, 17, 18. En outre, la parole du Seigneur vint à moi disant, « Fils d'homme, mange ton pain en tremblant, et bois ton eau avec frayeur et avec inquiétude. » Dès lors, il ne put justifier son mépris du tremblement. Son greffier prit part à mon interrogatoire en écrivant selon ses ordres, ce que le greffier lut ensuite, et John Gurden me demanda de le signer. Je fis remarquer que c'était incomplet et mal rédigé. Il me pressa de le signer. Je pris donc la plume et commençai à écrire mon objection quant à l'insuffisance du contenu, ayant l'intention de signer mon nom au bas de ce que le greffier avait écrit. Mais John Gurden m'arracha la plume de la main et dit que je ne devais écrire rien d'autre que mon nom, ce que je refusai catégoriquement, disant que s'il ne voulait pas me permettre d'écrire mon objection, il ne devait pas m'imposer de signer une déclaration inexacte qui n'était que partiellement vraie. Après avoir été si maltraité, on nous ordonna de nous retirer dans le vestibule. John Gurden et son fils Robert ordonnèrent au greffier de dresser un mandat pour me faire fouetter sévèrement le lendemain à Nelan, la ville où j'avais été arrêté et emmené hors de la Réunion. John Gurden sortit vers moi dans le vestibule et me menaça encore fortement, un livre de loi à la main, que je reconnus être le Justice Peace de Dalton. Et il lut un abrégé d'un ancien statut ou loi contre les vagabonds, les mendiants robustes, les personnes oisives et dissolues, les flâneurs, les colporteurs, les rétameurs, etc., avec les peines. Il insinua qu'ils avaient ordonné que je sois fouetté à Nelan, et si je revenais dans ce pays, je serais marqué au fer sur l'épaule comme un coquin, et si je venais une troisième fois, je serais pendu. Je répondis, « Je ne suis aucune des personnes que vous avez mentionnées, vous êtes un vieil homme, et vous allez vers votre tombe. » Vous ne savez pas à quelle vitesse le Seigneur peut mettre fin à vos jours et vous décevoir, vous ou vos mauvais desseins contre moi. Toutefois, je ne crains pas vos menaces, et si le Seigneur que je sers exige mon retour dans ces régions, je dois lui obéir. Il répondit, « Je sais que je suis un vieil homme. Je dis qu'il était vieux dans l'iniquité, et qu'il était grand temps pour lui de se repentir. » On m'appela pour entendre lire leur mandat de châtiment, et pour que le constable reçoive sa charge d'exécution, ce qui, après lecture, Robert Gurden enjoignit aux constables de veiller à ce que leur mandat soit exécuté à mon encontre comme il fallait. À ses risques et périls, lui dis-je, que je ne pouvais attendre rien de meilleur de lui Robert Gurden, parce qu'il avait faussement juré contre Henry Marshall, un homme honnête, aux assises trimestrielles, où il jura que Henry avait dit que Christ était un vagabond, ce qui fit que Henry fut injustement condamné à une amende comme blasphémateur et maintenu en prison avec nous à Edmondsbury pendant près de 12 mois. Que les paroles de Henry avait été très grossièrement déformé, tout à fait à l'opposé de ce qu'il avait dit lors de son arrestation. Que lorsque Henry avait été accusé d'être un vagabond, Henry leur dit, « Caïn était un vagabond, bien qu'il eût une ville sur la terre, mais Christ n'était pas un vagabond, bien qu'il n'eût pas un endroit où reposer sa tête. » Que tout cela était contraire à l'information donnée sous serment contre lui aux sessions, et que Henry nous avait rapporté cette fausseté plus de 40 fois en prison. J'accusai aussi le fils Robert Gurden, qu'une fois, alors que nous étions en prison, il était venu nous regarder avec mépris, et je le lui rappelai devant son père, au moment où il chargeait le constable de faire exécuter leur mandat comme il faut contre moi. Pour excuser son fils, le père dit qu'il avait juré au mieux de son souvenir. Je lui demandai s'il ne pouvait pas se souvenir de dire la vérité, et si les hommes ont coutume de jurer au tribunal sur des incertitudes, ou d'une manière douteuse, lorsque le mandat eut été signé et scellé par le père et le fils, on me ramena à Nelan, afin d'en subir l'exécution le lendemain. Cette nuit-là, je logeais dans une maison publique, où je me reposais tranquillement dans une grande paix. Une copie du mandat et du laissez-passer suit, à tous les constables et à tous les autres officiers que cela peut concerner, et à chacun d'eux. Soit rappelé qu'un certain George Whitehead, jeune homme d'environ 20 ans, qui confesse être né à Horton, dans le Westmoreland, ayant été en ce jour trouvé vagabond et errant un élan dans ce comté contrairement aux lois de cette nation, et ayant été pour cela amené devant nous deux juges de paix pour ce comté, et par nous ordonner d'être publiquement fouetté un élan ci-dessus-dit, jusqu'à ce que son corps soit ensanglanté, comme la loi l'ordonne en pareil cas, et il doit être conduit de paroisse en paroisse par les officiers. Qu'il soit rappelé que ce mandat sanglant est fondé sur un mensonge notoire, car je n'ai été ni trouvé vagabond ni errant un élan, mais j'étais dans une réunion religieuse pour l'adoration de Dieu. C'est de cette même réunion que j'ai été arraché avec violence et amené devant ces deux juges persécuteurs, qui, contrairement à leur charge et à leur titre, ont en cette affaire agi à la fois contre la loi, contre la justice et contre la paix de la nation, en faisant cruellement flageller une personne innocente, entièrement sur la base d'un mensonge grossier et notoire. Le lendemain de la date du mandat, il fut sévèrement exécuté par un sceau que le constable avait recruté pour le faire. Le constable me dénuda au-dessus de la taille, ce qu'il ne put me persuader de faire. Je les laissai plutôt accomplir leur propre cruauté. Le gars se mit à me fouetter avec un long fouet aigu, frappant si violemment qu'il entailla et blessa mon dos et ma poitrine de longues raies, déchirant la peau et faisant couler le sang, jusqu'à ce que certaines personnes qui regardaient criassent de l'arrêter. Il y avait un grand nombre de personnes présentes, car cela se fit en un lieu public, comme dans une rue d'un marché. Beaucoup pleurèrent en voyant leur cruauté. Pourtant, par la puissance du Seigneur, je fus rendu capable de tout supporter avec patience, gaiement, avec grand réconfort et réjouissance, jusque dans le temps même de l'exécution, ce dont beaucoup furent étonnés et frappés. Combien de coups j'ai reçus, je ne le sais pas, mais je me souviens que les marques se voyaient longtemps après, tant sur mon dos que sur ma poitrine. Il m'est aussi très mémorable de voir combien merveilleusement le Seigneur, par sa puissance divine, me soutint, même pendant qu'il m'infligeait leur cruauté et leur châtiment sur mon corps, au point que même alors mon esprit était élevé, et ma bouche s'ouvrait pour chanter à haute voix des louanges au Seigneur, mon Dieu, parce qu'il m'avait jugé digne de souffrir pour son nom et pour la vérité. Quand la main de l'exécuteur fut retenue de me frapper par le cri ou l'appel qui fut fait pour l'arrêter, je dis au peuple que c'était une preuve d'un ministre de Christ de supporter patiemment affliction, persécution, coup, emprisonnement, selon le témoignage du saint apôtre. Nous nous recommandons comme ministre de Dieu par une grande patience dans les afflictions, dans les coups, dans les emprisonnements, dans les tumultes, comme il est plus pleinement en Décors 6-4. Et tandis que je me tenais là, nu devant eux, avec mes marques et mes blessures, je dis alors aux officiers concernés que, s'ils avaient encore quelque chose à m'imposer, j'étais prêt et abandonné à souffrir, cela étant dans la cause de Christ pour la conscience. Je ne puis oublier la puissance merveilleuse, l'aide et le réconfort que le Seigneur m'accorda dans cet état de souffrance, et le mépris que mes persécuteurs voulaient, par envie, jeter sur moi et sur nos amis par ce genre de châtiment, légalement destiné aux coquins et aux voleurs, mais injustement infligé à moi, qui étais innocent. Ce mémorial est donné pour avertir tous les juges et magistrats professant le christianisme de ne pas suivre les pas de ces juges biaisés et persécuteurs mentionnés ci-dessus. Quand l'exécution, contre moi et la solennité qui l'accompagnait furent terminées à Nélan, je pris mon cheval et fus accompagné hors de la ville par le constable et d'autres en direction de Sudbury. Jusqu'à Sudbury, les officiers avec leur mandat et leur laissez-passer m'accompagnèrent le même jour que l'exécution eut lieu. Le lendemain, on me fit passer de constable en constable, par Clare et Haverhill, jusqu'aux confins du Cambridgeshire. À Clare, lorsque le mandat fut produit pour me faire avancer comme ordonné, plusieurs personnes me remarquèrent beaucoup, et voyant que j'avais un assez bon cheval avec un harnachement de bonne qualité, certains dirent « Ce jeune homme ne ressemble pas à un vagabond ». Aux confins du Cambridgeshire, nous rencontrâmes un constable dans un champ, à la herse. Lorsqu'il se rendit compte que le lendemain le mandat exigeait de lui qu'il me conduise sur environ 9 000 jusqu'à un autre constable en direction de Cambridge, il trouva que c'était trop loin pour qu'il vienne avec moi. Je lui dis qu'il n'avait pas à se donner cette peine, je savais quel chemin prendre. Il me remit alors volontiers le mandat. Comme la nuit approchait, je revins seul pour trouver une ville où je pourrais loger cette nuit-là, et non pas exactement par le chemin d'où je venais, mais un peu plus vers le sud. Je parcourus donc à cheval environ 5 000 ce soir-là, jusqu'à une ville appelée Steeple Bumstead, dans l'Essex, où je trouvai logement dans une auberge. L'aubergiste était ivre, et comprenant qu'on m'appelait Quake, je l'entendis dire « Je vais le botter de chambranle en chambranle », mais le lendemain matin il était plus sobre, et quand je payai ce que je devais, il se sépara de moi amicalement, puis je chevauchai vers Halstead et Coggeshall. Après cela je chevauchai vers Colchester, et j'eus plusieurs bonnes réunions et dans ces régions, dont une à Sudbury et une près de Nélan. Le pays fut alarmé et réveillé par ma souffrance. Les gens s'intéressaient davantage à venir aux réunions pour voir et entendre le jeune homme qui avait été si cruellement fouetté à Nélan. Beaucoup furent touchés avec tendresse et convaincus, et la vérité de notre témoignage se répandit plus largement et prévalut. Ainsi, la sombre colère du persécuteur fut transformée en louange à Dieu, et j'eus une grande joie et consolation en Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'étais librement abandonné à souffrir. Il me soutint puissamment et se tint près de moi en tout cela, gloire à son nom, et que la domination soit à lui pour toujours. Le jeune homme confond beaucoup de prêtres plus âgés, j'étais plus profondément préoccupé en esprit de voyager et de travailler dans le ministère de l'Évangile dans ce pays et dans ces régions où j'avais si grandement et si ouvertement souffert. Je visitais souvent ces comtés de lait, soutenu en esprit, porté au-dessus de toutes les menaces de marquage au fer et de pendaison, et au-dessus de l'envie de cet esprit cruel et persécuteur, et surtout au-dessus de la honte qu'il pouvait jeter sur moi par le reproche et le mépris. Dans la première partie de cet été-là, en l'année 1657, rencontrant mon cher ami et frère, Richard Robeson, nous voyageâmes ensemble hors du Huntingdonshire, de King Ripon à Leicester, puis à Coventry, Warwick et Worcester. Nous visitâmes les amis au passage dans ces lieux, tenant quelques réunions avec eux. Dans le Gloucestershire, nous rencontrâmes notre cher frère George Fox Esser, chez le juge Grimm à quelques milles de Gloucester. Lui, sa femme et sa famille avaient été convaincus de la vérité bénie, telle qu'elle est en Jésus-Christ, sa vie et sa puissance. Dans la cour de cette maison, George Fox tint une grande réunion ce premier jour où nous le rencontrâmes. Je lui montrai le mandat sanglant du juge John Gurden contre moi, ainsi que le laissez-passer mentionné plus haut, à quoi George Fox fut étonné et offensé par la cruauté du juge, et il résolut de lui écrire contre sa persécution. Le lendemain, j'allai à Gloucester et rencontrai les quelques amis qui se trouvaient alors dans cette ville, ce qui leur fut très agréable. Ensuite, je voyageai dans ce comté et dans le Worcestershire, et visitai les réunions des amis principalement autour des comtés et en partie du Hertfordshire. La parole de Christ et de vie était abondamment dans mon cœur et dans mon ministère, ce qui me permit par sa puissance de prêcher largement pour la conviction, l'affermissement et le réconfort de beaucoup. Je rencontrai de l'opposition et de la contestation de la part de certains baptistes et d'autres dans ces régions, comme dans le Gloucestershire, à Leinster dans le Hertfordshire, et dans la ville et le comté de Worcester. Cependant, le Seigneur se tint près de moi et me fortifia pour résister à toute l'opposition et à toute la contestation que je rencontrai ou qui se dressa sur mon chemin. Pourquoi j'ai béni et bénirai toujours cette puissance divine par laquelle j'ai été appelé et grandement assisté dans la défense de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ béni. Notre ami et frère, Thomas Goodyear, et certains baptistes, avaient fixé ou convenu d'une réunion au lieu d'assemblée de nos amis à Stockorshire, près de Tewkesbury, afin de disputer et de discuter des différences en matière de religion. Ayant entendu parler de la réunion prévue, j'y allais. Elle se tint dans une grange, où Thomas Goodyear et les baptistes, avec une grande compagnie de personnes, des amis et d'autres, étaient présents. Le prédicateur baptiste commença par une sorte de prédication, au lieu d'argumenter contre nos amis et nos principes. Il prêcha principalement sur la vie éternelle, et où il pensait que nous pouvions trouver la vie éternelle. Il déclara que la vie éternelle se trouvait dans les Écritures, et non suivant la lumière intérieure, ne confessant pas Christ ni sa lumière intérieure, ou en l'homme, ni sa révélation divine, ni son enseignement et ministère immédiat directement de l'Esprit chez les croyants, mais mettant tout principalement sur les Écritures extérieures, leur donnant la préférence, et insistant sur Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures, car vous pensez astérisque y avoir la vie éternelle. » De plus, dans sa prédication sur ce sujet, il cita ces paroles de Christ, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » À partir de là, le baptiste argumenta, « Si les paroles de Christ sont dans les Écritures, alors il y a esprit et vie dans les Écritures, où nous pouvons trouver la vie éternelle dans les Écritures. Puisque les paroles de Christ sont dans les Écritures, donc esprit et vie, où la vie éternelle, sont dans les Écritures, où nous pouvons trouver la vie éternelle dans les Écritures, et d'autres doctrines semblables. » Il continua à prêcher là-dessus si longtemps, je pense près d'une heure, qu'après l'avoir supporté si longtemps et patiemment, je fus contraint de l'interpeller pour être entendu et répondre. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, c'est un cas classique d'un ministre malhonnête tordant les Écritures pour la destruction de sa congrégation. Regardez le verset entier, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39-40. Le ministre baptiste inversa complètement le sens. son et les Écritures ne leur donnaient pas la vie éternelle et les empêchaient de venir à lui afin qu'ils aient la vie éternelle. J'obtins le silence et la liberté de répondre, puis je passai en revue les points de ses objections et lui donnai des réponses simples, les réfutant une à une, tout en reconnaissant sincèrement que les Saintes Écritures sont les paroles et la doctrine de Christ qu'elles contiennent. Mais l'argument et l'inférence du Baptiste tirés des paroles de Christ l'Écriture, je les distinguai ainsi, que bien que les paroles de Christ sortant immédiatement de sa bouche soient esprit et vie lorsqu'il les prononce, pourtant ces mêmes paroles, telles qu'elles sont écrites et seulement lues dans les Écritures, ne sont pas esprit et vie, car beaucoup lisent ces paroles sans son esprit et sans une vraie compréhension. En disant « les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie », il ne dit pas que les paroles, telles qu'elles sont écrites, et encore moins que les Écritures ou les écrits, sont esprit et vie. Quand Christ lui-même parle à une âme, ses paroles sont esprit et vie pour cette âme, car l'esprit et la vie sont dans ses paroles lorsqu'il les prononce. Mais quand un autre les lit ou les dit sans son esprit, elles ne communiquent ni esprit ni vie. Par exemple, lorsque Christ appela Lazare « mort et enseveli », Lazare sort, ses paroles furent esprit et vie pour Lazare. Mais que quelqu'un d'autre lise ou prononce les mêmes paroles à un homme mort et enseveli, et lui crie de sortir, cela ne le relèvera pas à la vie. Avec bien davantage, dans une démonstration simple et dans l'évidence de la vérité, je répondis à ses objections, et parce qu'il avait pris un temps si long à faire ses assertions, il fallait un temps plus long pour y répondre, ce que je revendiquais comme mon droit au nom de la vérité. Les amis présents à la réunion furent très satisfaits de la défense que le Seigneur me permit de faire alors, pour la justification de la vérité bénie et des amis de la vérité. L'auditoire, qui était sans préjugés, fut mieux informé, et son intelligence s'ouvrit. L'opposant et son parti se turent et s'en allèrent. La puissance du Seigneur domina tout dans cette réunion, et la vérité gagna du terrain, quoique ce fût au travers d'une certaine contestation. À Oust, j'eus une grande réunion, où je rencontrai quelques oppositions. Dans une réunion, je rencontrai l'opposition de quelques professants, tandis que plusieurs personnes de marque étaient présentes. Mais leur dispute fut bientôt terminée, car ils ne purent soutenir leur opposition, et la vérité prévalut sur eux, pour la conviction de beaucoup. Le Seigneur était avec moi dans mon témoignage pour son nom, et il me donna des réponses appropriées par sa puissance et son esprit immédiat, éclaircissant les choses pour la justification de la vérité de l'Évangile, dont il m'avait donné une dispensation, afin de rendre témoignage à sa lumière et à sa grâce, et d'y tourner les gens dans leur propre cœur et conscience. Gloire à son excellent nom et à sa puissance pour toujours. J'eus aussi une réunion en un lieu appelé Clifton upon Tiend, à environ 7 milles de Worcester. C'était en plein air dans un verger, et de nombreux amis et d'autres vinrent, y compris quelques amis du Hertfordshire. Après avoir prêché la vérité pendant quelque temps, John Dedicott, un ministre ou prêtre de la communion de Richard Baxter, avec plusieurs autres de ses frères, et le colonel Birch, avec la plupart des autres qui l'accompagnaient, entrèrent en dispute contre moi. Son principal point était de disputer contre la perfection et la délivrance du péché dans cette vie, comme n'étant pas atteignable pour les croyants ou les saints de ce côté-ci de la tombe. Un ou deux amis du Hertfordshire avaient été croyants avant d'être convaincus de la vérité, et l'un d'eux répondit au prêtre à ma place, craignant que je ne puisse le traiter en raison de ma jeunesse, et parce que le prêtre était prêt à se jeter dans sa logique et ses syllogismes astérisques. J'attendis un moment et observai quel argument l'ami utiliserait pour répondre à l'argument du prêtre. Je vis rapidement que je devais intervenir et traiter ce point sans me laisser intimider. Après que je fus entré dans la dispute, les amis qui avaient craint mon incapacité conclurent que je pouvais assez bien tenir tête au prêtre, et il laissa tranquillement la controverse à moi pour la mener. Astérisque George Fox se moquait des syllogismes, disant qu'on pouvait s'en servir pour prouver n'importe quoi, par exemple, « toutes les poules ont deux pattes, puisque les gens ont deux pattes donc les gens sont des poules ». Le point principal de doctrine sur lequel John Dedicott insistait était que le péché et l'imperfection étaient impossibles à quitter dans cette vie, que la perfection, c'est-à-dire l'absence de péché, n'est pas atteignable dans cette vie, accusant même Paul de ne pas avoir été libéré de l'acte de péché tant qu'il était dans le corps ou sur la terre. Mais il ne pouvait citer aucun péché effectif ni aucun acte de péché à la charge de Paul, ni à la charge de quelque autre saint mort dans la foi, qu'il n'aurait pas abandonné avant la mort. Au sujet de l'Écriture, Hébreux 12, 22-23 astérisque où l'atteinte de la perfection est déclarée, mon opposant refusait toujours d'admettre qu'elle soit possible dans cette vie, en particulier en ce qu'ils étaient venus aux esprits des justes rendus parfaits. Il voulait que l'Écriture soit interprétée comme ne se rapportant pas à cette vie, ou de ce côté-ci de la tombe, argumentant ainsi, si la perfection n'est pas atteignable de ce côté-ci de la tombe, alors ils ne sont pas venus au esprit des justes rendus parfaits dans cette vie, ou de ce côté-ci de la tombe, mais la perfection, c'est-à-dire l'absence de péché, ou l'acte de péché n'est pas atteignable dans cette vie, donc ils ne sont pas venus aux esprits des justes rendus parfaits de ce côté-ci de la tombe. Astérisque, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. Vous vous êtes approché de milliers et de milliers d'anges, dans une joyeuse assemblée de l'Église des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans le ciel. Vous vous êtes approché de Dieu, le juge de tous les hommes, des esprits des justes rendus parfaits, Hébreux 12, 20-23. Je vis clairement la fausseté de son argument dans la deuxième proposition et dans la conséquence, et l'absurdité, et je montrai au peuple comment l'apôtre écrivait alors à ses Hébreux croyants, à qui il dit « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à l'Assemblée générale et à l'Église des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans le ciel, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des justes rendus parfaits. » Il est clair que ces croyants à qui l'apôtre écrivait n'étaient pas à leur mort, et dans leur tombe lorsqu'il leur écrivait ainsi, et leur disait qu'ils étaient venus aux esprits des justes rendus parfaits. Pensez-vous que l'apôtre leur aurait écrit alors qu'ils étaient morts dans leur tombe? Ainsi l'argument dut être abandonné, et plusieurs autres arguments que notre opposant tenta, mais sans grand effet, étant pleinement répondus et réfutés, et les choses éclaircies concernant l'œuvre intérieure et spirituelle de Christ, et sa manifestation pour détruire l'œuvre du diable, qui est le péché et sa souillure. J'eus alors, et souvent grand réconfort, vie et force pour plaider la cause de Christ et de sa justice contre la cause du diable et l'œuvre du péché et de l'injustice, et la puissance de Christ et son conseil m'accompagnaient réellement et m'assistaient dans ce service, pour confondre tout ce qui plaidait la cause de Satan, pour la continuation du péché durant la vie sur la terre, en quoi ils n'étaient en rien des amis, des serviteurs ou des ministres de Christ, quelles que fussent leurs professions ou leurs prétentions. Dans cette dispute, le Seigneur me montra à la fois les sophismes des arguments des adversaires et me donna plus de découvertes et de vues de leur sorte de logique et de leur manière rusée d'employer des syllogismes que je n'en avais jamais eu auparavant et promptement à trouver les sophismes et souvent des absurdités dans leur raisonnement, bien qu'ils prétendissent y avoir mode et figure. Le Seigneur me donna de reconnaître qu'une proposition fausse était fausse et lorsque l'inférence était indûment déduite d'une proposition, bien qu'en elle-même vraie. Sachant que c'est une partie principale de la vraie logique dans les disputes que d'être d'abord certain que la proposition est vraie ou correctement formulée, ainsi que de la conséquence qui suit naturellement, afin qu'elle concorde véritablement. Après qu'il plut au Seigneur de me donner, en cette matière, une intelligence claire, entre la vraie et la fausse manière d'argumenter, entre ce qui était la vraie logique et ce qu'on appelait à tort ainsi, car il y a une vraie science, et celle qui est faussement ainsi nommée, je fus alors préparé à résister à toute l'opposition rusée de la logique feinte et des syllogismes que je rencontrais, tant à Cambridge qu'en d'autres lieux, et je n'y attachais pas plus de prix qu'à de la pédanterie une ostentation de savoir. Je pouvais aisément, par voie de syllogisme, retourner l'absurdité d'un adversaire contre lui. J'ai rencontré bien des prêtres forts pleins de leur logique artificielle acquise, qu'ils étiraient souvent jusqu'à de nombreuses absurdités, tandis qu'ils nous condamnaient et nous tournaient en dérision comme des hommes illettrés. Mais lorsque nous avions découvert et réfuté leur ignorance et leurs absurdités, alors ils s'écriaient contre nous et nous accusaient d'être des jésuites. Astérisque, j'ai souvent été accusé ainsi par eux. Astérisque, les jésuites étaient un ordre particulier de prêtres catholiques romains, très instruits mais fort dépourvus de principes. On les considérait comme la police secrète du pape, car on disait qu'ils avaient assassiné des personnes et suscité des guerres et des insurrections pour étendre le domaine du pape. Ils avaient joué un rôle de premier plan dans les inquisitions qui torturèrent et assassinèrent 9 millions d'âmes au Moyen Âge. Les jésuites étaient si redoutés en Angleterre qu'il était légal de les exécuter. Les Quakers étaient fréquemment accusés d'être des jésuites, surtout lorsqu'ils paraissaient si jeunes avec tant de connaissances de la Bible et de Dieu, généralement sans aucune instruction. Quand tout le reste échouait, traiter quelqu'un de jésuite était l'insulte et l'accusation ultime de l'époque. Après que John Dedicott et ses frères ne purent tenir leur position pour soutenir sa plaidoirie et ses arguments en faveur de la persistance du péché et de l'imperfection, dans cette vie chez les meilleurs des saints, le colonel Birch reprit la plaidoirie pour maintenir leur point de vue, contrairement au témoignage de l'apôtre Jean. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Contre cela, le colonel argumenta à partir de cet article de la prière du Seigneur, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il dit, donc, ils avaient des offenses qui devaient être pardonnées, et ils étaient nés de Dieu, et étaient ses enfants, puisqu'il était leur père quand il disait, « Notre Père qui es aux cieux. » Cela sembla être l'argument principal avancé dans cette controverse, où il paraissait aller au-delà des prêtres. Mais je démontrai les divers états et degrés des enfants de ceux qui peuvent appeler Dieu Père, des enfants sous l'enseignement du Christ, ou encore à l'école de son enseignement, qui avaient besoin de demander le pardon de leurs offenses, et des enfants à qui Jean écrivait lorsqu'il disait « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés ». Devaient-ils toujours prier pour le pardon de leurs péchés toute leur vie, même après que leurs péchés leur avaient été pardonnés? Certainement pas, car cela impliquerait qu'ils avaient encore besoin de pardon, ou qu'ils étaient dans un état de condamnation alors même que leurs péchés leur étaient déjà pardonnés, ce qui est très incohérent. À cela, je ne compris pas quelle réponse le colonel ou les prêtres pouvaient donner, eux qui, après un long échange, se retirèrent tranquillement de la réunion. Mais plus encore, quant au point alors en question, au sujet d'appeler Dieu notre Père, et des divers états du fait d'être ses enfants par lesquels nous devons passer pour naître de nouveau, etc. 1. Il l'est, et peut être ainsi appelé, en tant qu'il est notre Créateur, ayant créé l'homme à son image, n'avons-nous pas tous un même Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés 2. Dieu est reconnu pour notre Père lorsque nous sommes engendrés par sa parole vivante, dans une mesure de foi véritable et vivante en Christ afin d'être sanctifiés, étant adoptés ou choisis pour être ses fils et héritiers de la vie éternelle. Et comme tels enfants ou fils par adoption, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel, comme de jeunes enfants faibles, nous crions vers lui « Abba Père ». Drouin. Lorsque nous ne faisions l'expérience que d'une petite entrée dans l'œuvre de régénération ou de sanctification, et que nos cœurs étaient tournés vers Dieu avec de tendres soupirs et désirs vers lui, afin que l'œuvre avance et prospère, vers l'achèvement ou la nouvelle naissance, alors nous pouvions véritablement appeler Dieu notre Père, lui qui nous a fait renaître pour une espérance vivante. 4. Et bien que les petits-enfants, dont les péchés sont pardonnés par la repentance et la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, soient faibles et puissent trébucher et possiblement tomber, au point de recevoir des contusions ou des blessures, l'apôtre Jean donne pourtant cet encouragement à de tels. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, par quoi il implique la possibilité d'un état sans péché, ainsi que notre devoir de ne pas pécher. Et aussi de ne pas désespérer de l'aide et du relèvement si l'un de nous, dans cette faible condition de petits-enfants, venait à pécher, ou à faire quelque chute, blessure ou contusion, comme dans ses paroles suivantes. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste, et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Notre médiateur a accordé une telle bonté et une telle aide, si nous ne péchons pas volontairement. 5. Et de plus, même de tels petits-enfants, qui sont encore faibles et chétifs et font l'expérience d'une mesure de vraie foi et de repentance au nom du Christ, Dieu n'est pas disposé à les rejeter, mais à les reconnaître pour ses enfants et son peuple, et s'ils sont sincères dans leur désir et leur amour envers lui, et ne se retirent pas mais suivent pleinement le Seigneur, oui suivent le Seigneur Jésus-Christ en et à travers l'œuvre de régénération, ils deviendront ces Dieu enfants nés libres, il Dieu sera pour eux un Père éternel, et il. 6. Dieu prit plaisir à estimer Éphraïm comme son cher fils et son enfant agréable, lorsqu'il fut humilié sous son châtiment, et pria d'être ramené, et se repentit, voir Jer 31:18-20. Et dans cette condition abaissée, le Seigneur lui étendit compassion et miséricorde, à lui ou à cette tribu. Les entrailles des tendres miséricordes de Dieu, qui s'émeuvent et s'ouvrent abondamment en son cher Fils Jésus-Christ, envers les véritablement repentants et humiliés, par ses châtiments paternels. 7. Considérons maintenant la nouvelle naissance achevée ou parfaitement formée en Jésus-Christ, ceux qui sont parfaitement nés d'en haut, par le Saint-Esprit, nés d'eau et de l'Esprit, de sorte qu'ils soient entièrement lavés, sanctifiés et rendus vivants pour Dieu en Christ, demeurent en lui et ne pêchent point, comme Jean l'a dit, quiconque demeure en lui ne pêche point, et celui qui est ainsi né de Dieu ne peut pécher parce qu'il est ainsi né, et que sa semence demeure en lui. Pour parvenir à cet état et à cette stature en Jésus-Christ, il faut un véritable travail de l'âme, de la persévérance et une croissance en grâce, ainsi que la fidélité dans l'amour de Dieu, étant enracinée dans l'amour, et une stabilité réelle dans la vérité et la justice. Le véritable enfant né du ciel doit être gardé dans le sein du Père, et béni soit notre Père céleste, il a beaucoup de tels enfants, qui ne l'abandonneront jamais, lui qui est le Dieu de leur salut, et qui préféreront mourir plutôt que de renier la vérité. Et qui les séparera de l'amour de Christ, et nous ne pouvons rien contre la vérité mais pour la vérité. Contrairement à cette doctrine apostolique, le dit John Dedicott a aussi argumenté, dans une lettre qui m'est adressée, datée du 23 du 5e mois 1657, bien que je l'eusse par ailleurs pleinement informé, tant lors de notre dispute que par écrit. Sa doctrine y est à peu près la même qu'auparavant, contre la perfection et un état sans péché en cette vie, signifiant que son cœur est attristé, parce que cette perfection en cette vie et la liberté du péché sont prêchées par nous, et qu'aucune erreur n'attriste davantage son cœur que cette doctrine, et qu'elle est une doctrine qui ruine les âmes. Sa doctrine en cela est contraire à la doctrine du Saint Apôtre. Enfin, frères à Dieu, soyez parfaits, soyez consolés, La doctrine de la perfection, donc, n'était pas destinée à attrister leur cœur, mais à les consoler. Elle ne pouvait pas non plus être une doctrine erronée ou ruineuse pour les âmes, et affirmer qu'elle l'est, c'est faire injure à Christ et à son ministère, qui a prêché la même doctrine de perfection et de sainteté. Voir Matt 5, 48, Luc 6, 40, 1 Cor 7, 1 Ephes 4, 12, 2 Cor 12, 9, 2 Tim 3, 17, Hébdis 14, 1 Jean 4, 12, 13, 2 Cor 7, 1 Psa 1, 2. La personne, dont le cœur était attristé, parce que notre doctrine de perfection et de liberté du péché est atteignable en cette lumière, affirme en outre que les justes ne sont pas parfaits en grâce, et que la foi est imparfaite, que la foi des meilleurs est parfois faible et pleine de doutes, et que la foi et la connaissance sont toutes deux imparfaites. Remarquez, c'est une accusation grave contre les justes, et même contre les meilleurs des hommes, ainsi que contre leur grâce, leur foi et leur connaissance sans exception. Mais il n'a pas affirmé cela soit d'après sa propre expérience, soit d'après la Sainte Écriture, à savoir qu'il est lui-même soit l'un des meilleurs des hommes, soit l'un des vraiment justes, soit l'un de ceux qui sont dans la foi de Christ, par laquelle foi il purifie le cœur d'un véritable croyant. Si par son usage du mot imparfait, il entend pécheur ou mêlé de péché, ou ayant du péché, car il assimile imperfection et péché, lui, avec beaucoup d'autres de sa profession, qui ne sont que des ministres pécheurs, se trompe grandement par ignorance tant des grâces divines que de la foi des justes et des meilleurs des hommes. Il n'est pas censé d'affirmer que leur foi est parfois pleine de doutes, ce n'est guère mieux que de nous dire que la foi des meilleurs est pleine de défiance ou d'incrédulité, ce qui est contraire à la nature de cette foi vraie et vivante qui est le don de Dieu, dont Christ est l'auteur, et qui est un fruit du Saint-Esprit. On l'appelle aussi la foi produite par l'opération de Dieu. Bien qu'il y ait un état de croyants faibles, faibles dans la foi, ou de petite foi pendant un temps, pourtant leur foi croît et augmente, eux qui suivent Christ, l'auteur de la vraie foi, cette très sainte foi qui fut et est la victoire des saints. Les degrés et l'accroissement de la foi ne prouvent pas que la foi des meilleurs des hommes soit parfois pleine de doutes et d'imperfections. Le désir de croître dans la foi, pendant un temps, ne démontre pas une foi fausse, car la foi commence petite, comme un grain de moutarde, et doit croître. C'est une faiblesse de la part du croyant d'entretenir des doutes, des craintes ou de la défiance, par quoi il y a un déclin par rapport à la foi qui est le don de Dieu, de qui vient tout don bon et parfait. Et le déclin ou l'égarement des hommes hors de la foi n'est pas l'état de quelque homme véritablement religieux, encore moins l'état des meilleurs des hommes, dont la foi et la confiance reposent sur le nom et la puissance de Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous recevons la fin, la bienheureuse récompense de notre foi, à savoir le salut. Commentaire de l'éditeur du site. À mesure que votre foi naissante grandit, vous devenez assuré de ce que vous espérez et certain de ce que vous ne voyez, n'expérimentez ou ne possédez pas encore. À mesure que Christ, l'auteur et le parfait accomplisseur de votre foi, vous conduit jusqu'au terme, les doutes disparaissent jusqu'à s'évanouir. Les justes vivent par la foi, ceci est évidemment sans doute. Dans un temps où des doutes traversaient mon esprit, le Seigneur m'a dit il y a des années, « La lumière détruira tous les doutes », ce qu'il a largement fait. La foi est un don, un élément du fruit de l'esprit. La même année et durant l'été 1667, je voyageais et travaillais beaucoup dans le ministère de l'Évangile, dans les divers comtés de Nottingham, Derby, Leicester, Warwick et dans le Staffordshire et d'autres régions, et je visitais de nombreuses assemblées dans l'amour et la bienveillance de Dieu, dont j'avais par son cher fils reçu un sens et une expérience vraie et vivant, par lesquelles je fus fortifié et soutenu dans un grand labeur, dans l'œuvre du ministère de l'Évangile, et dans cet amour mon service fut très bien accueilli. Je rencontrai peu d'opposition, de disputes ou de controverses de la part des adversaires, après celles que je rencontrais dans le Gloucestershire, le Worcestershire, et une fois à la fin d'une assemblée à Leinster dans l'Hertfordshire, et à une assemblée dans le Warwickshire, où un baptiste acharné engagea une controverse au sujet de la parole, mais en fit peu, car il était remarquable combien il s'opposait de manière impertinente à notre affirmation que Christ est la parole de Dieu, ce qui allait dans le sens de minimiser. Et, par conséquent, que la parole existait avant que les Écritures fussent écrites, à quoi le baptiste objecta, en s'appuyant sur la parabole du Christ et son interprétation, Matt 13, 4, 19, Marc 4, 4, 15, Luc 8, 6, 12, au sujet de certaines semences tombées au bord du chemin, que les oiseaux vinrent dévorer, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le méchant et enlève ce qui avait été semé dans son cœur, ou bien le diable vient et ôte la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. On objecta donc que le diable ne pouvait pas ôter Christ de leur cœur. Et alors, il n'est pas dit non plus que le diable ôte les Écritures de leur cœur, ni que les Écritures aient été semées en eux, ou dans ces divers types de terrains. Les paraboles ne doivent pas être prises à la lettre, ni toujours contraintes à un sens littéral. Bien que le diable ne puisse pas ôter Christ du cœur des hommes, il peut détourner le cœur d'auditeurs légers et ignorants du sens de la parole prêchée, lorsqu'ils en sont touchés, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés, ce qui est trop commun parmi des croyances oublieuses et stériles. Et tout ce qu'on peut tirer de cela ne pourra jamais prouver que la parole n'est pas Christ, car ce serait contredire Jean 1:1, ni que Christ n'est pas la parole prêchée, car ce serait contredire ses ministres, qui prêchent Christ, la parole vivante et éternelle. J'avais parfois entendu parler de Rhys Jones, et qu'il avait d'abord été convaincu de la vérité attestée par George Fox, mais qu'il s'était bientôt détourné contre lui et contre les amis, et s'était rassemblé une assemblée séparée pour lui-même. Certains appelaient ce groupe séparé les Quakers orgueilleux. Rhys leur fit croire qu'il était divinement inspiré, capable d'ouvrir le sens spirituel des Écritures. Ils tenaient leur réunion au château de Nottingham. Lorsque j'y fus un premier jour de la semaine, je me sentis concerné de les visiter à leur réunion. Je m'assis un moment et observai la manière de leur exercice, et eux écoutant Rhys leur expliquer l'Écriture. Voyant combien leur dévotion ou exercice était mort et vide, je fus poussé à rendre un témoignage clair contre leur état de mort. Je mis en question le fait qu'ils n'attendaient pas en silence de sentir la puissance du Seigneur les vivifier pour son culte spirituel. J'eus quelques discussions avec Rhys, à la suite de quoi il parut quelque peu abattu en son esprit et fut empêché de continuer cette fois-là. Une femme présente, qui paraissait être une personne sérieuse et la meneuse de ses auditeurs, sembla quelque peu offensée par ma discussion avec lui. Elle me dit « J'ai vu en vous une simplicité quand vous êtes arrivée pour la première fois, mais maintenant la subtilité s'est élevée en vous, par quoi elle semblait viser, ou reconnaître, la vertu de la simplicité. Quoi qu'il en soit, mon témoignage spirituel et vivant rendu parmi eux eut un tel effet sur cette femme et sur quelques autres qu'ils furent convaincus de la vérité, quittèrent Rhys Jones et sa réunion, et devinrent amis. Ils purent voir au sujet de Rhys que, bien qu'il eût une forme, il niait la puissance de la piété, et qu'il pouvait donc bien se détourner de telle. Bien que Rhys lui-même soit venu ensuite à quelques-unes de nos réunions, je n'ai pourtant jamais entendu qu'il fût parvenu à quelque véritable établissement dans son esprit, dans la lumière ou la puissance de la vérité, ni à un véritable amour des amis. Ce ne sont pas les professions ou notions des hommes, recueillies seulement de la lettre, mais c'est l'esprit qui engendre l'amour véritable, l'amitié et l'unité. Je travaillais dans l'œuvre de l'Évangile dans les comtés et lieux susmentionnés, et j'eus cet été-là de nombreuses grandes assemblées en plein air. En conséquence de mon emprisonnement et des mauvais traitements subis dans la prison d'Edmondsbury, comme relaté précédemment, vers la fin de l'été, à une assemblée en plein air à Leicester, un premier jour, je devins quelque peu faible de corps et je tombai malade d'une fièvre, à cause d'un refroidissement qui s'était emparé de moi. J'étais si malade et si faible que mon rétablissement était incertain. Lorsque la maladie fut à son paroxysme, ou proche de son terme, le Seigneur me montra qu'il me rétablirait et me relèverait de nouveau. Mon œuvre n'était pas encore achevée, je devais encore vivre pour témoigner contre les prêtres cupides, etc. Cela me fut révélé et montré avec une telle clarté et une telle puissance que j'en fus immédiatement ranimé, et je crus certainement, ce que j'avais auparavant eu raison de mettre en doute, que le Seigneur me rendrait la santé, pour son nom et son œuvre, et pour le bien du peuple. Le lendemain matin, je dis à quelques amis, là où j'étais couché malade, comment le Seigneur m'avait montré cette nuit-là qu'il me relèverait et me rendrait la santé, que mon œuvre n'était pas achevée, qu'il avait encore du travail pour moi, et que je devais encore témoigner contre les prêtres cupides. Les amis qui m'entendirent en furent très heureux, et ma santé se rétablit si rapidement que je recouvrai et allai de mieux en mieux, gagnant en force chaque jour, la durée de cette maladie étant d'environ 2 semaines avant mon rétablissement. L'endroit où j'étais couché malade à ce moment-là était un bourg appelé Whetstone, près de Leicester, chez Thomas Paulet ou Parlet, qui, avec sa femme, étaient des amis honnêtes et aimants. Peu après mon rétablissement, je voyageai de nouveau dans l'œuvre et le service du Seigneur à travers une partie du Warwickshire Coventry, puis vers le nord à travers le Yorkshire, visitant autant d'assemblées que je le pouvais commodément dans mon voyage vers mon propre comté, Westmorland, l'été touchant alors à sa fin et l'hiver approchant. J'eus plusieurs bonnes réunions dans le Yorkshire et j'arrivai sain et sauf à la maison de mes parents dans le Westmorland, où j'étais très bienvenu et reçu avec une grande joie et bonté, après avoir été absent d'auprès de plus de 3 ans. Pendant cet intervalle, on sut que j'avais enduré de grandes difficultés sous la persécution, de sorte que j'étais pour eux comme quelqu'un revenu ou ressuscité d'entre les morts. Ils m'avaient cru comme perdu ou mort, comme dans le cas inverse du mien. Ce fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Bien que je n'aie jamais été un prodigue, ils m'avaient pourtant compté comme un homme perdu de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur leur donnât une meilleure intelligence, à mes proches qui avaient pensé que j'étais perdu de Dieu. Durant les 3 années de mon absence, le Seigneur secrètement, par sa puissance, ôta des cœurs de mes parents et de mes relations ces pensées dures et préjudiciables que les prêtres leur avaient d'abord inspirées à mon sujet et au sujet de mes amis, le peuple appelé Quakers. Je suis, et demeure, pleinement satisfait que le Seigneur a secrètement plaidé ma cause innocente après que j'eus été rendu comme un misérable objet et abandonné pour perdu et ruiné. Pourtant, au travers de tout, le Seigneur me donna la foi et la patience pour tout supporter et pour survivre à de nombreuses oppositions, épreuves et exercices, aussi bien qu'aux difficultés, gloire à son excellent nom et à sa puissance pour toujours. Étant revenu dans mon comté natal, j'eus de bonnes occasions de visiter les amis aux diverses réunions que j'avais fréquentées et où j'étais le plus connu avant de voyager au loin dans l'œuvre du ministère, telles que les réunions de Sedbug, Grérig, Kandal, Ravenstondal et Strickland, et ces régions du Westmoreland, etc. Où je fus reçu avec joie, et mon ministère, qui m'était donné du Seigneur, fut très bien accueilli, au grand réconfort de nombreux amis innocents, en qui leur premier amour était frais et vivant, et qu'ils conservèrent jusqu'à la fin de leur jour. Je traversai aussi les sables à cheval jusqu'à Swarthmore, dans le Lancashire, chez le juge Fell, pour visiter Margaret Fell et sa famille, ainsi que la réunion des amis dans leur maison, où nous fûmes réconfortés ensemble dans le Seigneur, et dans le grand amour et l'unité dans lesquels nos amis de là et de ces régions se trouvaient alors. Je visitai aussi des réunions d'amis à travers le Cumberland, où je n'avais pas été familier ni beaucoup connu avant ce voyage. Toutefois, les amis de ce comté étant aussi très aimants, ils me reçurent très aimablement, ainsi que mon témoignage et mon service pour le Seigneur Dieu et sa vérité bénie et toujours vivante, lui qui m'avait rendu zélé pour sa promotion et sa diffusion, tout comme il m'avait rendu capable d'endurer pour elle de grandes souffrances et difficultés. Je me souviens qu'en ces jours-là, les amis de la partie occidentale du Cumberland tenaient leurs réunions en plein air, en un lieu du commun appelé Parthsay Crag, n'ayant pas alors de salle convenable pour contenir les assemblées. Il faisait très froid, un temps orageux, neigeux et de neige fondue, lors de l'une des réunions que j'eus là sur le Crag, mais comme il en avait plusieurs côtés, et que les moutons peuvent s'y abriter du vent et de la tempête, les amis prenaient habituellement le même avantage pour se réunir du côté le plus calme. J'eus vraiment plusieurs bonnes et bénies réunions en plein air à Parthsay Crag, tant en hiver qu'en été, et après que nos amis eurent fait construire une maison de réunion, j'y eus aussi quelques réunions à l'intérieur. De même, nos amis de Strickland et de Chap, et de ce côté du Westmoreland, tinrent leurs réunions pendant quelques années sur le commun, terre commune destinée aux parcs et aux pâturages, tant en hiver qu'en été, jusqu'à ce qu'ils aient une maison de réunion construite à Great Strickland. Au début, nos amis de ces comtés du Nord tinrent leurs réunions sur les communs et dans des lieux montagneux pendant plusieurs années. Le Seigneur les rendit grandement capables de supporter le froid et toutes sortes de temps. Il a plu la plupart du temps à certaines réunions, et nous avons été très mouillés, pourtant je ne me souviens pas avoir jamais attrapé une maladie à cause de ces réunions. Car le Seigneur nous a préservés et défendus par sa puissance, béni soit son nom, lui qui me rendit capable, ainsi que beaucoup d'autres, de tenir ferme et de supporter divers genres de tempêtes et de vents. Je voyageai durant la première partie de l'hiver 1667 dans le Westmoreland, puis dans le comté de Durham jusqu'à Newcastle et le Northumberland, et je visitai soigneusement les réunions des amis dans ces régions, ainsi qu'à Berwick-upon-Tweed, puis je revins vers ce qu'on appelle la Sainte-Île, au bord de la mer. La femme du gouverneur de la garnison ou du fort là-bas était une amie. Richard Wilson, un ami de Sunderland, m'accompagna jusqu'à Berwick et au retour. Nous fûmes aimablement reçus sur cette île, tant par le gouverneur, le capitaine Philip, comme on l'appelait, que par sa femme, et ce soir-là, j'eus une réunion dans le château où la garnison était cantonnée, avec la famille et parmi les soldats, qui furent courtois envers nous. Nous y logeâmes cette nuit-là, étant accueillis avec bonté, et le lendemain matin, le gouverneur envoya son homme pour nous guider à travers les sables. Parce qu'il avait été convaincu de la vérité, il nous témoigna davantage de bonté, et il devint un ami. Quelque temps après, lui et sa femme déménagèrent dans l'Oxfordshire, du côté de Banbury, et autant que je sache, tous deux demeurèrent amis jusqu'à la fin de leur jour. Sur notre retour à travers le Northumberland, je déclarai la vérité et j'avertis les gens, dans plusieurs villes, de se repentir et d'amender leur vie. Je me souviens en particulier d'une ville où il y avait un joueur de cornemuse, et des gens autour de lui dansaient près d'une meule de foin dans une cour. Je m'approchai d'eux à cheval, et dans la crainte du Seigneur, je les avertis de se repentir. Le joueur de cornemuse cessa de jouer, et lui ainsi que les personnes présentes m'écoutèrent paisiblement jusqu'à ce que j'eusse déchargé ma conscience, puis je me séparai d'eux en paix, Il n'y avait alors que peu d'amis ou de réunions dans ce comté. Lorsque nous voyageâmes à Berwick et en revînmes, il nous fut difficile de trouver un logement en certains endroits, notamment à Alnwick et en un autre lieu au retour. Nous n'eûmes qu'une petite réunion d'amis à Berwick. Notre aimant ami John Dove et sa femme et sa famille à Whittlesea me reçurent avec bonté chez lui et j'eus une réunion tant à North Shields qu'à Tynemouth. De grands efforts furent faits pour organiser des réunions à Newcastle-upon-Tyne pendant que j'étais dans ces régions, mais le maire de la ville, influencé par les prêtres, ne voulut pas nous permettre de tenir quelques réunions que ce soit dans la juridiction de la ville, tandis qu'à Gateshead, étant hors de la juridiction du maire, nos amis avaient établi une réunion dans la maison de notre bien-aimé ami Richard Eubank. La première réunion que nous entreprîmes alors d'avoir dans la ville de Newcastle fut dans une grande salle louée exprès par quelques amis, William Coatsworth de South Shields avec d'autres amis, y étant zélé et profondément concerné. La réunion n'était pas entièrement rassemblée lorsque le maire et ses officiers vinrent et par la force, nous chassèrent de la réunion et hors de la ville. Le maire et sa compagnie nous commandèrent et nous escortèrent jusqu'au pont sur la rivière Tyne, qui sépare Newcastle et Gateshead. Sur ce pont se trouve une pierre bleue, jusqu'à laquelle seulement s'étend la juridiction du maire. Lorsque nous arrivâmes à cette pierre, le maire donna son injonction à chacun de nous en ces termes. « Je vous enjoins et vous commande, au nom de son Altesse le Lord Protecteur, que vous ne veniez plus dans Newcastle pour y tenir d'autres réunions, à vos risques et périls. » Un autre premier jour, nous nous réunîmes de nouveau, en plein air, dans la juridiction de la ville de Newcastle, près de la rive du fleuve, où les officiers du maire vinrent encore et nous traînèrent hors de la juridiction, sur le pont comme auparavant, et à Gateshead nous pouvions jouir paisiblement de nos réunions, ce dont nous rendions grâce à Dieu. Étant ainsi, par la force, empêchés de tenir des réunions dans la juridiction de la ville, un ami ou des amis se mirent d'accord avec l'homme qui tenait le Guildhall, ou Shirouz, pour permettre aux amis d'y tenir une réunion, puisque c'était hors de la liberté de la ville. Bien que le gardien de la salle eût convenu du prix, le prêtre de la ville s'interposa pour empêcher notre réunion après qu'elle y eût été fixée, et persuada le gardien de rompre sa parole et le marché conclu avec nos amis. Et pour les tenir hors de la maison où il avait convenu qu'ils se réuniraient, le prêtre lui donnant une demi-couronne pour revenir sur son engagement, comme on nous a rapporté, car nous fîmes honte au gardien de montrer la cause de la rupture de son accord, en nous laissant dehors. Étant ainsi privés de la maison, après que la réunion eût été fixée à l'avance et l'heure arrêtée, il nous fallut tenir la réunion dehors, sur le flanc de la colline près du Shirouz, étant hors de la liberté du maire. Le Seigneur l'ordonna ainsi, par sa puissance souveraine qui surplombe tout, que nous eûmes non seulement une grande réunion, avec un vaste rassemblement de gens en plus de nos propres amis, mais qu'elle se tint aussi dans le calme, et que les esprits du peuple furent soumis et amenés sous l'action de la puissance et de la prévalence de la vérité et du témoignage de l'Évangile, que le Seigneur notre Dieu me donna la force de porter dans cette réunion, avec puissance et autorité, pendant un temps considérable. Je crois que cela dura en tout 2 ou 3 heures, et ma voix fut élevée à un tel degré que certains dirent qu'on m'entendait depuis le flanc de Castle Hill, de l'autre côté de la rivière Tyne, jusque dans Gateshead, qui s'élève en face de l'autre rive. Outre beaucoup de personnes sérieuses présentes à la réunion, il y eut aussi un grand rassemblement de gens grossiers et ignorants. Ce fut par la grande miséricorde et la providence de Dieu que la réunion fut maintenue dans un tel calme, d'autant plus que les prêtres et le maire étaient si opposés à nous qu'ils refusèrent la permission d'avoir une réunion dans la juridiction de la ville. La réunion fut aussi contrainte de se tenir en plein air, parce que le prêtre, par fraude, empêcha notre réunion en intérieur, persuadant et soudoyant l'homme pour qu'il rompe sa parole et son marché. L'attitude paisible, l'ordre et l'issue de la réunion nous furent d'un grand réconfort, à nous qui étions concernés par la promotion de la vérité en elle, et ce fut à la grande satisfaction des amis. Je me souviens du soin de certaines personnes présentes, dont quelques-unes semblaient être en charge. Elles m'accompagnèrent pour s'assurer que j'étais à l'abri des mains de la foule. Elles le firent tant à la fin de la réunion que lorsque je traversais une partie de la ville de Newcastle. Le travail et le service de ce jour-là sont très mémorables, comme ils furent remarquables. Le souvenir frais de la bonté et de la puissance du Seigneur, de ma force et de mon aide dans sa propre œuvre et son service, est encore pour moi un sujet de réconfort. Plus grand encore est le réconfort de sentir vivement que cette même bonté divine, cet amour et cette puissance du Seigneur Dieu continuent d'être avec moi. Ce même amour et cette même puissance qui m'assistèrent et m'aidèrent à travers de profondes souffrances, des épreuves et de lourdes entreprises en son service, pour son saint nom et pour l'amour de sa vérité bénie. Ô mon âme, bénis le Seigneur, et que tout ce qui est en moi loue son saint nom, car sa miséricorde demeure à toujours. À peu près au moment où l'on nous empêcha d'avoir des réunions à Newcastle, étant chassés de la ville par le maire, comme relaté, il survint une occasion douloureuse et un trouble pour beaucoup d'amis, comme suit. Le susmentionné William Coatsworth avait persisté à chercher à organiser une réunion à Newcastle, et ayant été déçu, il laissa entrer trop de chagrin et de troubles d'esprit. Si troublé qu'il devint instable et, dans la précipitation, prit un cheval pour Londres en toute hâte afin de parler à Oliver Cromwell, protecteur, pour se plaindre et faire connaître son cas contre le maire de Newcastle. Mais arrivé à Durham, il fut arrêté chez son beau-père John Joplin. Le voyant fort agité, on le retint et on le remit entre les mains de médecins. Ils lui administrèrent plusieurs doses de leur remède, jusqu'à ce qu'il fût près de la mort. Certains rapportèrent qu'on lui donna une autre dose de médicaments dans l'heure précédant sa mort, bien qu'il eût auparavant rejeté l'usage de tels moyens charnels, comme il les appelait. Avant de mourir, il fut mieux disposé et devint assez lucide pour déclarer plusieurs choses afin de dégager la vérité, et pour prendre sur lui la faute par laquelle il s'était égaré et avait commis l'erreur, confessant les justes jugements de Dieu qui étaient venus sur lui, disant à son beau-père et à sa belle-mère Joplin, « C'est le juste jugement de Dieu de m'amener ici pour dévoiler ma honte parmi vous. Père et mère, j'ai festoyé et fait bombance avec vous, et quand vous étiez néglige je l'étais aussi, et quand vous riez et parliez je faisais de même, et ainsi j'ai trahi la simplicité de Dieu en moi, pauvre William Coatsworth, et bien que vous fussiez mes amis extérieurement, vous étiez des ennemis de la semence de Dieu en moi. Pauvre homme, il fut amené à reconnaître qu'il n'avait pas demeuré dans la croix, ni été aussi vigilant qu'il aurait dû l'être, et sans doute fût-ce une miséricorde pour lui d'avoir été rendu si sensible avant sa fin. Il parla plusieurs fois de George Fox et dit qu'il était tendre envers la simplicité de Dieu en lui, et que Richard Farnsworth lui avait dit de travailler à être petit, petit à ses propres yeux, mais, dit-il, je n'ai jamais pu parvenir à être petit, petit dans ma propre volonté. Ces choses me furent rapportées par plusieurs amis qui étaient avec lui. Il mourut quelques jours après s'être arrêté à Durham, le 8 jour du 11e mois 1657. Son exemple peut être un avertissement pour d'autres qui sont convaincus de la vérité, qu'ils soient bas dans leurs esprits, petits à leurs propres yeux, et vigilants à demeurer sous la puissance de la croix, contre leur propre volonté et élan. J'eus une véritable tristesse pour sa veuve affligée et accablée, et, dans une compassion chrétienne, je la visitai, et j'eus une réunion à sa maison à South Shield. Puis, pendant quelque temps, je visitai d'autres réunions dans ce comté de Durham, comme Sunderland et d'autres lieux. Quand je me trouvai, en esprit, dégagé de ces régions, je pris mon chemin vers York, puis assez directement vers le sud, comme l'île d'Ely, le Norfolk, le Suffolk et l'Essex, où mon service, comme aussi mes souffrances, avaient principalement eu lieu. Après de grands labeurs et voyages en plusieurs parties de la nation, comme relaté précédemment, au deuxième mois de l'année 1658, je tombai malade d'un accès de fièvre intermittente, frissons et fièvre alternée, comme le paludisme et de fièvre, qui commença dans l'Essex. J'en souffris plusieurs jours, et j'eus plusieurs réunions jusqu'à ce que j'arrive dans le Norfolk, quoique dans un état faible. Ma faiblesse augmenta tant que je fus contraint de demeurer dans la maison d'un ami à 10 pendant 2 ou 3 semaines. Le Seigneur voulut me rétablir et me restaurer peu à peu dans ma santé et ma force. J'avais été si fortement abaissé par cette maladie que mon rétablissement parut être une providence particulière de Dieu, qui a bien voulu prolonger mes jours pour son nom et pour l'œuvre. Par sa puissance souveraine et sa providence miséricordieuse, il m'a accordé des préservations si manifestes que ni les tumultes furieux, les lapidations, les coups, les emprisonnements cruels, les sévères flagellations, les multiples labeurs, les voyages, ni à maladie n'ont été autorisés à abréger mes jours, car le Seigneur les a prolongés au-delà même de mes propres attentes, il y a de nombreuses années, et aussi à la déception des attentes et des désirs de mes cruels persécuteurs. Que mon cœur et mon âme, en vraie humilité, bénissent le Seigneur notre Dieu pour ses nombreuses bénédictions et ses éminentes préservations, tant intérieures qu'extérieures. Qu'à lui soit la gloire et la louange par-dessus tout, à lui seul qui en est digne pour toujours. Le 12 jour du 5e mois 1658, tandis que je traversais à cheval la ville d'Auxon, dans le Suffolk, et que je rencontrais Edward Whelan, le prêtre de la ville, je l'exhortai à craindre Dieu et à cesser l'iniquité. Nous entrâmes dans quelques discussions, au cours de laquelle le prêtre m'accusa de séduire son troupeau hors de l'église. Ayant eu une réunion dans la ville la veille, je demandai au prêtre, au sujet du steeplehouse d'Auxon, comme nous en étions près si c'était là l'église dont il parlait. Il affirma que c'était l'église. Je lui demandai de prouver qu'une telle maison faite de bois et de pierre est l'église du Christ. Il prétendit prouver que oui, d'après 1 Cor 11:22, ou méprisez-vous l'église de Dieu. Ce qui ne prouve nullement que l'église de Dieu soit une telle maison faite de bois et de pierre, car l'apôtre, au même endroit, distingue entre leurs maisons et l'église de Dieu, en disant, « Quoi, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu ?» Dit au prêtre que l'église du Christ est bâtie de pierres vivantes, ce qu'il concéda, mais il s'obstinait à soutenir que la maison ou l'édifice extérieur, comme le Stipulus d'Auxon, était l'église, bien qu'il reconnaisse que cette maison n'était pas bâtie de pierre vivante. Mais il allégua que lorsque l'apôtre parlait de l'église, il parlait du contenant pour le contenu, en quoi il faisait tort aux paroles et au sens de l'apôtre, car lorsque l'apôtre écrivait à l'église du Christ ou à l'église de Dieu, il écrivait à ce qui est un corps 1-2, et à l'église qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. 1-1, l'apôtre écrivait au peuple sanctifié, aux saints, non pas à une maison de bois ou de pierre. Après avoir décelé et déclaré l'erreur du prêtre, il se mit en colère, car il paraissait à la fois ignorant et envieux, et ne pouvait pas soutenir honnêtement une discussion avec modération. Dans notre discussion, son envie et sa rage montèrent à un tel degré qu'il saisit mon cheval par la bride et le retint de force, ayant aussitôt quelques-uns de ses partisans pour l'assister, lesquels, avec le prêtre, me forcèrent à comparaître devant un certain Anthony Barry, appelé juge de paix, et membre d'une congrégation ou église indépendante à Sillarne, près de Auxon, où Rabegum était pasteur, et était estimé comme un ministre réputé parmi ces gens. Edward Whelan, le prêtre, donna à ce magistrat Barry contre moi des informations partiales, pour l'avoir traité de persécuteur et autres termes semblables, après qu'il m'eût agressé dans Auxon Street et menacé de me tirer de mon cheval. Bien qu'il fût démontré au magistrat combien ce prêtre était ignorant et plein de préjugés, et combien mince et sans fondement était le prétexte qu'il avait saisi contre moi pour me persécuter, et combien le prêtre lui-même avait troublé la paix en m'agressant sur la grande route. Pourtant, pour satisfaire l'envie du prêtre, le soi-disant magistrat Anthony Barry fit dresser un mandat pour me faire écrouer à la prison du comté à Ipswich. Cela se fit sous prétexte que j'avais injurié le prêtre, quoiqu'il ne pût prouver aucune loi enfreinte par moi dans mon entretien avec le prêtre, entretien que j'avais conduit équitablement et d'une manière chrétienne. Mais le magistrat Barry prétendit une loi par laquelle il m'accusait, dont il nous dit que la violation était un acte récent du Parlement, fait pour punir les vagabonds, les personnes oisives, dissolues et débauchées, ainsi que les joueurs de violon, etc. Et il déclara que cela ne visait que les Quakers. Mais cela ne pouvait être vrai, car elle était faite contre les personnes oisives, débauchées et dissolues, qu'on pouvait proprement appeler vagabonds ou rôdeurs. Quant au peuple appelé Quakers, je crois qu'il y avait alors, et qu'il y a encore, parmi eux, des hommes au moins aussi responsables que le magistrat ne l'a jamais été, sinon plus responsables, et de meilleure réputation à tous égards. Il était donc très injuste de sa part de traiter les Quakers de vagabonds ou de rôdeurs, en nous disant que le dit acte du Parlement, fait contre les vagabonds, n'avait été fait que pour les Quakers, puis de saisir un prétexte injuste, autant qu'illégal, pour me faire jeter en prison. Quoi qu'il en soit, il voulut faire un ordre d'écrou pour m'envoyer à la geôle, et ils furent si pressés de m'y conduire qu'ils ne me permirent pas de prendre une nuit de repos. Mais après m'avoir couché sur un banc, la nuit même où je fus appréhendé, on me fit partir à la hâte à cheval, escorté par quelques hommes de la ville de Auxon jusqu'à la prison d'Ipswich. Nous chevauchâmes la plus grande partie de cette nuit et y arrivâmes un peu après le lever du soleil. Il y avait, à ce que je crois, plus de 20 000. Quand je fus remis au gardien, je trouvai trois de nos amis alors dans la prison commune, où l'on mettait les criminels. L'un était William Alexander de Needham, un honnête jeune homme, et deux autres honnêtes amis, qui souffraient pour non-paiement des dîmes. J'étais fort satisfait de souffrir en si bonne compagnie dans le quartier commun, où tant le lieu que notre couchage était bien pauvre, n'ayant d'autre lit que de la paille de pois. Toutefois, nous avions des draps et des couvertures sur la paille. John Story, gardien de la prison, bien qu'il eût auparavant traité durement George Rose et quelques autres amis, se montra néanmoins bien plus civil envers moi et les amis avec moi que ne l'avait été Robert Newton, le geôlier d'Edmondsbury. J'y fus détenu jusqu'aux prochaines sessions trimestrielles, puis je comparus devant les magistrats, où le prêtre Edward Whelan et une autre personne prévenue, Thomas Yellop, se présentèrent pour me poursuivre et donnèrent, sous serment, contre moi une déposition fausse, partiale et aggravée, que j'avais insulté le ministère de la parole de Dieu lors d'une réunion à Auxon. Pourtant, il avoua au tribunal qu'il ne m'avait pas entendu à la réunion, car il n'y était pas, mais il prit pour témoin un bailli envieux, un certain Thomas Yellop, qui jura la même chose que le prêtre avait juré contre moi. Mais aucun de ses accusateurs ne put établir de fait concernant l'accusation qu'Edward Whelan avait portée contre moi en m'agressant sur la grande route, uniquement pour l'avoir exhorté et pour avoir disputé contre sa doctrine erronée au sujet de l'Église et contre son exigence de dîmes ou de salaire pour prier pour les gens, comme il l'avait déjà avoué. Il ne voulut pas informer les sessions de ces choses, en ayant lui-même conscience, mais il se plaint de ce que je l'avais accusé d'être un persécuteur, et de ce que je témoignais contre son envie et sa malice, qui était la voix de Caïn, et que sa propre violence et ses injures contre moi montraient qu'on pouvait justement lui imputer. Il prit cela pour un grand affront et pour une injure envers lui, étant venu d'aussi loin que de Hoxton à Ipswich pour me poursuivre sous serment, ce qu'il pouvait à peine faire sans trembler, comme quelqu'un saisi de consternation, de culpabilité et d'une grande envie et d'un désir de vengeance. Pour le satisfaire ou l'apaiser, Edmund Harvey et d'autres des magistrats jugèrent bon de témoigner au prêtre tant de faveurs qu'ils me condamnèrent à une amende de 20 shillings, lorsqu'un jury d'hommes ignorants eut rendu son verdict ou sa sentence injuste contre moi, conformément à ce que le prêtre avait faussement juré, bien que j'eusse déchargé ma conscience en témoignage contre leur persécution et leur procédure partielle contre l'innocent. De retour en prison, j'y fus détenu plusieurs semaines, jusqu'à ce que leur seigneur protecteur, Oliver Cromwell, mourût, en dont le nom j'avais été écroué, amendé et détenu prisonnier, comme beaucoup de nos amis l'avaient été de son temps, et que son fils Richard Cromwell fut proclamé protecteur à sa place. Peu après, mon cher ami Robert Duncan, ayant fait une démarche auprès de son oncle Duncan d'Ipswich et auprès du magistrat Edgar, ou des magistrats en ma faveur, je fus mis en liberté de cet emprisonnement, dans lequel j'avais été enfermé environ 16 semaines en tout, ce que j'estimais une petite souffrance en comparaison de ce que j'avais auparavant enduré. Je donnerai encore un indice de l'envie et de l'ignorance du prêtre Whelan, avec quelques observations. Ayant menacé certaines personnes qui n'étaient pas de ses auditeurs d'obtenir du magistrat Barry un bref pour les dîmes ou le salaire qu'il prétendait qu'elle lui devait, on lui demanda en présence du magistrat s'il était juste de recevoir un salaire de ceux pour qui il n'avait fait aucun travail. Le prêtre répondit « Je prie pour chacun dans ma paroisse ou dont j'ai entendu dire qu'il était dans la paroisse, qu'il vienne m'entendre ou non. » Prêtre et le magistrat s'accordèrent dans une action contre les Quakers, bien que non dans la profession de religion, l'un étant un prêtre paroissial presbytérien, et l'autre membre d'une église indépendante, qui prétendait être mieux réformé et plus raffiné que les prêtres paroissiaux et leurs églises, prétendant à des dons spirituels, comme ayant l'esprit du Christ, et l'autre ne pas avoir cet esprit infaillible, l'un pour une église paroissiale sans exception, l'autre pour une église indépendante, mieux qualifiée pour recevoir leur. Nous voulons une preuve scripturaire indiquant où un ministre du Christ exige des dîmes ou de l'argent d'un peuple quelconque pour prier pour lui. Il n'existe non plus aucun précédent ni exemple dans l'Écriture où des ministres du Christ aient poursuivi des hommes ou obtenu un mandat d'un magistrat pour les contraindre à leur dîme ou à leur salaire, soit pour leur prêcher, soit pour prier pour eux. Ils prêchaient et priaient gratuitement, comme le Christ l'a commandé, par l'Esprit de Christ Jésus, qu'ils avaient reçu de lui. Mais le dit prêtre Whelan avoua qu'il n'avait pas été appelé par un esprit infaillible, mais qu'il prétendait avoir en lui un esprit infaillible. Par là il montra que sa prédication et ses prières procédaient de son propre esprit faillible et errant, et non de l'esprit du Christ, qui est un esprit infaillible et sans erreur. Le Seigneur est contre ces prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et n'ont rien vu, et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Or, dans quel triste état se trouve ce peuple ? Combien sont misérables ceux qui sont conduits par des guides aveugles, qui ne suivent pas l'esprit du Christ, mais suivent leur propre esprit ? Et quel bien peuvent faire les prières de ceux qui n'appartiennent pas au Christ ? Et quel marché misérable font les gens qu'on force à payer des dîmes ou de l'argent pour des prières de faux prophètes ? Ce commerce doit assurément prendre fin là où le Christ vient à être le prêtre, prophète, ministre et évêque de son peuple. Après ma libération, j'eus une très bonne et réconfortante œuvre de ministère de l'Évangile en plusieurs endroits du pays, particulièrement à Waltonside dans le Suffolk et à Manningtree, Colchester et d'autres villes de l'Essex, où nous eûmes des réunions tranquilles et consolantes. Les choses semblaient alors, avec ce nouveau changement de gouvernement par Richard, dit le protecteur, devoir tourner d'une manière assez favorable pour nous et nos réunions. Pourtant l'esprit d'envie demeurait secrètement, et ses fruits apparaissaient chez une sorte de gens professants qui soutenaient leurs enseignants contre nous, le peuple appelé Quakers, et contre nos réunions religieuses. Ils ne voulaient pas volontiers permettre à d'autres gens qu'à eux-mêmes d'exercer leur conscience, par quoi ils ne pouvaient exercer leur conscience sans envie, ni envers Dieu ni envers les hommes. Leur propre volonté avait sur eux plus d'emprise qu'une conscience juste, équitable ou tendre. Ils auraient pu avoir quelque tendre égard pour le précepte juste, équitable et divin de faire aux autres ce qu'ils voudraient qu'on leur fît, mais les consciences de tous les persécuteurs en sont dépourvues, comme le montre le récit suivant. Lors d'une réunion de nos amis avec moi, étant dans la ville d'Ipswich, quelques semaines après ma sortie de prison, notre honnête ami Timothy Grimble, capitaine de navire, et sa femme souhaitèrent que nous nous réunissions chez eux. En conséquence, nous eûmes une bonne et paisible réunion pour l'adoration et le service du Dieu Tout-Puissant, et la manifestation de sa vérité bénie. Beaucoup d'honnêtes gens s'y assemblèrent, et la présence du Seigneur fut connue parmi nous. Mais nos adversaires dans la ville étaient encore possédés de haine et d'envie contre nous et nos réunions. Ils étaient dans un état d'anxiété et complotèrent comment renouveler leur persécution au nom de leur nouveau protecteur, afin de le rendre coupable et fautif, comme les persécuteurs l'avaient fait par leur mauvaise administration des lois inférieures, qui a souvent attiré le reproche sur les supérieurs du gouvernement quand on a usé de leur nom. Poursuivant ces mauvais desseins contre nous, pour empêcher les amis d'avoir d'autres réunions dans leur ville, on fit la présentation suivante contre notre ami Timothy Grimble. Suffolk le Joy de son Altesse Richard, seigneur protecteur du Commonwealth d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et des dominions et territoires y appartenant, présente sous serment que Timothy Grimble, récemment d'Ipswich dans le comté susdit marin Ipswich ci-dessus nommé, le 7 jour de janvier 1658, et continuellement après jusqu'au jour où cette enquête est prise, a reçu dans sa maison favorisée, hébergé et soutenu beaucoup de personnes dissolues, oisives, déréglées, lubriques et suspectes, perturbateurs de la paix. Il entretient aussi le désordre, une mauvaise règle et un mauvais gouvernement dans sa maison, au grand préjudice de ses voisins et d'autres gens de ce Commonwealth, et contre la paix. Les noms des dix jurés, John Mall, John Amon, Thomas Wright, J.R. John Donty, Robert Stebbing, Thomas Grigg, Charles Wright, John Gray, John Jolley, Samuel Infray, Edward Keane, Richard Infray, Joseph Emor, Richard Clopton, Peter Cole, Robert Groves, Edmund Danby, Thomas Brooke, Richard Thurston, William Godall. Un résumé d'une réponse donnée à la dite présentation par quelques amis concernés. Que tous les gens sobres observent combien ces jurés et inquisiteurs ont paru envieux contre Timothy Grimble et ses amis innocents. 1. Leur présentation étant fondée et composée de fausses accusations, de grossiers mensonges et de calomnies. La réunion que nous eûmes chez Timothy, le 6 jour du 11e mois 1658, fut une réunion paisible pour le service de Dieu et son culte, et pour y faire valoir la sainte vérité. Et elle ne donna aucun motif à ses jurés ni à d'autres de s'offenser d'une telle réunion, qui était conforme à la loi de Dieu, reconnue par lui, et aussi tolérée par le gouvernement. Quelle inimitié et quelle malignité paraissent donc dans une présentation si scandaleuse, de diffamer ainsi un homme honnête pour avoir permis une réunion paisible et reçu chez lui des gens tranquilles et innocents, qui devraient, selon la loi, être protégés, et non punis pour l'exercice de leur religion ou de leur conscience envers Dieu. 2. Quant à ceux qu'on appelle Quakers, que Timothy Grimble a reçus et hébergés dans sa maison, qu'ils disent inconnus des jurés, certains de leurs noms sont Robert Duncan, Robert Grassingham, Joseph Scott et George Whitehead. Et ils sont bien connus pour n'être ni dissolus, ni oisifs, ni déréglés, ni lubriques ou suspects, ni perturbateurs de la paix publique, comme ils sont injustement diffamés et couverts d'opprobre dans la présentation faite sous serment contre eux. Mais ils sont très bien connus pour être des personnes sobres et honnêtes, et aussi responsables là où ils vivent. Quelle large conscience a paru chez ces jurés, qui pouvaient jurer contre des hommes qui leur étaient inconnus, et sous serment les présenter comme si hautement criminels, les qualifiant de personnes dissolues, oisives, déréglées, lubriques et suspectes, tout en étant inconnues de ses accusateurs et jureurs contre eux. 3. Nous vous demandons, jurés, où et quand avons-nous, nous qu'on appelle Quakers, contre lesquels vous avez juré, troublé la paix publique, et quelle mauvaise conduite pouvez-vous nous reprocher ou prouver contre nous, si vous ne pouvez prouver le fait allégué, sur lequel pourtant vous avez juré contre nous, ayez honte. Assurément, ces magistrats, ou ce tribunal, qui reçoit une présentation comme la vôtre, ne devrait pas se fier à votre serment, mais vous interroger sur les crimes ou accusations particulières alléguées, puisque vous avez grossièrement et très injustement diffamé Timothy Grimble et ses amis appelés Quakers, de quoi vous êtes responsable. Que les magistrats vous demandent quelles personnes suspectes il aurait continuellement hébergé, et qu'ils vous éprouvent sur quel fondement vous avez jeté de telles imputations sur des hommes sobres et honnêtes. Et quel désordre, quelles mauvaises règles et quel mauvais gouvernement Timothy Grimble entretient-il dans sa maison? Quels voisins sobres et honnêtes diront qu'ils sont importunés ou troublés par le désordre, une mauvaise règle ou un mauvais gouvernement entretenu chez Timothy Grimble? Produisez vos preuves pour ces accusations, sinon, comme des parjures, fermez pour toujours la bouche et que la honte couvre vos lèvres, car en cela vous n'avez agi ni en homme raisonnable ni en chrétien, ni faites à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fît. Trouveriez-vous bon d'être présenté ou inculpé pour avoir reçu vos amis, comme vous avez présenté et grossièrement travesti Timothy Grimble pour avoir hébergé ses amis? 4. Beaucoup peuvent témoigner que les réunions que nous avions chez Timothy Grimble à Ipswich étaient paisibles et légales. Et ces prêtres, et gens de profession qui s'en offensaient, auraient agi plus honnêtement ou plus prudemment s'ils étaient venus nous trouver en face dans nos réunions pour y manifester ouvertement quelles débauches ou quelles erreurs auraient été pratiquées ou enseignées par l'un de nous, s'ils le pouvaient, plutôt que d'agir derrière notre dos pour exciter les magistrats contre nous, sans aucune cause juste. mais la tromperie de ceux qui ont ainsi agi dans l'ombre contre l'innocent est rendue manifeste à leur honte, et d'autant plus par les grossiers abus envers des gens innocents, comme l'ont fait les 10 jurés et ceux qui les soutiennent. 5 jurés, quel qu'en soit le motif, est une transgression contre la doctrine du Christ. Mais présenter, sous serment, des mensonges et des calomnies afin de faire souffrir l'innocent est une offense bien plus grande que ces jurés ont commise contre Timothy Grimble et ses amis, appelés Quakers, qui témoignent contre toute oisiveté, désordre, relâchement, débauche et mauvais gouvernement quel qu'il soit. Ainsi les méchants ont fait du mensonge leur refuge, et tels des hommes rendus fous par l'envie, ils ont forgé de telles calomnies contre des hommes honnêtes, comme celles contenues dans ladite présentation, de sorte que nous pouvons même dire avec le prophète, « Ceux qui étaient furieux contre nous ont juré contre nous ». Ainsi ai-je résumé la substance et la plus grande partie de notre réponse originale, qui fut signée par Robert Duncan, George Whitehead et Robert Grassingham, lettre de George Whitehead aux habitants d'Ipswich, tant aux enseignants qu'au peuple. Oh, l'orgueil, l'arrogance et la suffisance qui abondent dans cette ville d'Ipswich. Quelle prétention, quelle hypocrisie et quel culte de la volonté se trouvent parmi les croyants, qui adorent dans l'ignorance un Dieu inconnu selon leur propre volonté, qui se sont appropriés les paroles des saints et des écritures de vérité, mais sont sortis de la lumière qui conduisait les saints, et en ont attristé et éteint l'esprit lorsqu'il s'est manifesté dans leur propre conscience pour les convaincre de péché et de mal. Ainsi leur péché demeure en eux, et la malédiction de Dieu a pouvoir sur ceux qui vivent dans l'orgueil, la tromperie, la superstition et une conduite impie. Il y eut autrefois, chez plusieurs d'entre eux, un zèle agité pour le Seigneur, selon ce qu'ils connaissaient. Mais maintenant beaucoup de morts, de froideur, de vacuité et de stérilité pèsent sur leurs esprits, et l'injustice a la prééminence parmi eux. Les enseignants ont pris les paroles des saints pour en parler, et sont fardés d'une profession vide et d'une humilité feinte, mais intérieurement ils sont orgueilleux, cupides et rebelles, résistant à la vérité, et ils font commerce des Écritures, enseignant pour salaire et devinant pour de l'argent. C'est contre de tels hommes que les vrais prophètes de Dieu ont crié, car ils sont comme des femmes qui cousent des coussins sous les aisselles des gens, disant paix aux méchants là où il n'y a point de paix, et ils sont comme des renards dans les déserts, avides attendant leur proie. Et beaucoup d'entêtement et d'esclavage se trouvent chez les prêtres orgueilleux et cupides, et chez beaucoup des croyants, qui ne veulent pas amener leurs œuvres à la lumière. Ils n'osent pas non plus éprouver toutes choses, comme l'apôtre l'a commandé, mais crient contre nous appelés Quakers derrière notre dos, et ne voudraient pas être éprouvés face à face, ni permettre à d'autres de venir nous éprouver face à face, bien que, pour la vérité, plusieurs d'entre nous aient souffert parmi eux en prison. Beaucoup des enseignants excitent le peuple contre nous et contre ce que nous professons, qui est la vérité, ainsi sont-ils maintenus dans l'esclavage et l'ignorance. Et vous, gens de profession à Ipswich, le Christ peut justement vous dire « J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais en prison parmi vous et vous ne m'avez pas visité. Autant que vous n'avez rien fait à ces petits qui croient en moi, qui ont souffert parmi vous, vous ne m'avez rien fait. Pourtant, je vous déclare ceci de la part du Seigneur. Le jour de la visitation et le royaume de Dieu se sont approchés de vous. Et malheur à ceux qui continuent à marcher dans l'impureté, résistant et haïssant la lumière, qui est le témoin de Dieu dans leur propre conscience, qui les convainc de péché et de mal, et les reprend lorsqu'ils le commettent. Ardent pas toujours résister à la vérité, puisque le Seigneur vous avertit, de peur que vous ne périssiez dans vos iniquités, que votre sang ne soit sur vos propres têtes et sur vos enseignants, qui retiennent le salaire de l'injustice et exercent une domination sur vous, pour vous maintenir dans l'ignorance de la vraie lumière en vous-même, dont le Christ vous a éclairé, et à laquelle tous doivent venir et qu'ils doivent suivre, quiconque veut être sauvé de la colère de Dieu et de la malédiction qui demeure sur les enfants de la désobéissance. Loin toutes vos professions vides, et que ceux qui nomment le nom du Christ se détournent de l'iniquité. Loin tous vos enseignants orgueilleux et cupides qui prêchent pour salaire, qui font commerce des paroles des saints, lesquelles furent prononcées librement par l'Esprit de vérité. Loin tout votre orgueil, vos habits voyants et l'excès de méchanceté. Le Seigneur est attristé de ces choses, vous n'êtes pas venu à la modestie dans l'habillement extérieur, ni au véritable ornement intérieur, qui n'est ni coûteux ni voyant, mais celui d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant le Seigneur. Combien de temps le Seigneur attendra-t-il pour vous faire grâce, tandis que vous résistez à sa grâce qui vous est apparue, pour vous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement et pieusement dans ce présent monde mauvais? Combien de temps le Seigneur vous avertira-t-il, sans que vous vous repentiez? Combien de fois vous appellera-t-il, par sa lumière en vous, à sortir de votre souillure, et pourtant vous ne lui répondez pas et n'écoutez pas sa voix? Combien de fois le Seigneur frappera-t-il à la porte de vos cœurs, et pourtant vous ne lui ouvrirez pas? Sachez toutefois que son esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, Mais il arrive que ceux qui veulent être souillés doivent demeurer souillés. Ainsi, puisque vous aimez vos âmes, prenez avertissement. D'un ami de tous ceux qui désirent connaître le Seigneur, et de quelqu'un qui, pour l'Évangile, a récemment souffert 15 semaines, ou davantage, dans la prison d'Ipswich. Suffolk, le premier jour du 9e mois, L608 George Whitehead. Il était remarquable que malgré toutes les persécutions, les reproches et les calomnies que nous subissions, et qui se multipliaient contre nous, surtout contre ceux d'entre nous qui rendaient un témoignage public pour Christ Jésus et sa vérité, et contre les corruptions du monde, la vérité gagnait du terrain et prévalait, et notre nombre ainsi que nos réunions augmentaient en ces jours du Commonwealth, ainsi nommé. Les prêtres cupides et orgueilleux en étaient fortement offensés et troublés, voyant tant de leurs auditeurs et bienfaiteurs les quitter pour se rendre à nos assemblées. Et bien que nous, prédicateurs publics de justice, eussions quelques répits et quelques soulagements de la persécution ouverte durant les années 1658 et 1659, après l'établissement de Richard Cromwell comme protecteur, pourtant, durant son bref temps, ces prêtres ne cessèrent point leur persécution, en nous travestissant grossièrement et en nous couvrant d'opprobre. Mais le vacarme de leur chair contre nous rendit les gens indifférents, et sans préjugés d'autant plus curieux et disposés à venir à nos assemblées pour entendre et voir par eux-mêmes, et ne pas être assez crédules et partiaux pour recevoir sur simple foi tous les mauvais rapports et reproches contre nous, notre doctrine ou notre ministère, comme trop de gens l'ont fait injustement et injurieusement, à leur propre disgrâce et honte. Partie Yves Suite, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.